Vous écoutez Radio France Internationale, il est 4h30 en temps universel, 2h de plus à Paris. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous.
Et à la une ce matin, la colère du Rwanda.
Avec Kigali qui annonce quitter la CEAC, la communauté des États d'Afrique centrale. Le Rwanda aurait dû en prendre la présidence tournante hier. Finalement, c'est la Guinée équatoriale qui la conserve. Et les autorités rwandaises dénoncent, je cite, l'instrumentalisation de l'organisation par la RDC avec le soutien de certains États membres. Dans ce journal également, reportage à Bunia en Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, où l'hôpital ne désemplit pas de patients blessés par les groupes armés. Le Burundi, avec les élections législatives et municipales cette semaine, qui ont une nouvelle fois illustré le peu de liberté dont jouissent les journalistes dans le pays. Des millions de produits contraceptifs qui risquent la destruction, conséquence de la suspension de l'Agence américaine de développement. Explication dans quelques minutes. Et tout à l'heure, le journal des sports, football et basket au programme avec Victor Missistrano. C'est donc une nouvelle illustration des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. À cette réunion de la CEAC hier, la communauté des États d'Afrique centrale, réunion qui s'est finie en eau de boudin avec Kigali qui aurait dû récupérer la présidence tournante de l'organisation. Finalement, ce n'est pas le cas et le Rwanda annonce son départ de cette CEAC. Amélie Tulé.
Le Rwanda proteste ainsi contre la décision prise ce samedi à Malabo. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a en effet choisi de prolonger d'une année supplémentaire la présidence de l'organisation par la Guinée équatoriale et donc par le président Obiang Nguema. La conférence a différé à un autre moment le passage de la présidence tournante au Rwanda, peut-on lire dans le communiqué final du sommet. En réaction, Kigali déclare, je cite, « déplorer l'instrumentalisation de la communauté économique des États de l'Afrique centrale » par la République démocratique du Congo avec le soutien de certains États membres. Fin de citation. Selon un commissaire cité par l'agence France-Presse, les représentants de la République démocratique du Congo auraient fait valoir qu'ils ne pourraient pas se rendre aux activités de la communauté s'ils étaient accueillis par le Rwanda. Dans un communiqué du ministère rwandais des Affaires étrangères, Kigali dénonce la remise en cause de ses droits garantis par les textes constitutifs de la CEAC et pointe, je cite, l'échec de l'organisation à faire respecter ses propres règles.
Amélie Tulé, et l'un des points de discorde entre la RDC et le Rwanda, c'est le rôle de Kigali en soutien de la rébellion de l'AFC M23 qui contrôle de larges pans des provinces du nord et du sud Kivu. Dans l'est congolais, un peu plus au nord, dans la province de l'Ituri, des groupes armés sont également actifs. Et depuis le mois de février cette année, la province voit même une recrudescence des attaques menées par ces miliciens, à tel point qu'à Bunia, la capitale provinciale, le pôle chirurgie de la clinique Salama n'accepte désormais plus que les blessés liés aux violences et les accidentés de la route avec un pronostic vital engagé. Et le service ne désemplit pas. Reportage de Coralie Pierret.
Espérance traverse la cour de la clinique Salama, un pagne sur les épaules. Ses trois larges cicatrices sur le crâne se sont refermées, mais son bras est encore immobilisé à cause de sa blessure par balle. Cette mère de famille a été prise en charge mi-février en urgence au pôle chirurgie après l'attaque de son village.
Cette nuit-là, des personnes non identifiées ont attaqué vers minuit. J'ai d'abord entendu des coups de fusil. Ceux qui tiraient étaient aussi accompagnés de personnes armées de machettes. Ils ont attaqué et blessé mes enfants.
Depuis le début de l'année, le nombre de blessés graves liés aux violences dans la région fluctue. Le service a donc réajusté ses critères d'admission, explique le docteur Christian Rwankuba, responsable médical pour MSF.
La prise en charge doit être de bonne qualité. Et c'est ce qui a poussé qu'on puisse garder des patients plus graves dus à la violence, mais les accidents de la route qui peuvent aussi se prendre en charge peuvent aller dans d'autres hôpitaux. Et là, ça va nous faciliter à avoir un taux d'occupation dans les standards, moins de 80%, faire des bonnes évaluations des patients et une bonne prise en charge des patients.
Depuis mi-février, les attaques de groupes armés augmentent dans la région où le conflit communautaire perdure et reste imprévisible. Coralie Pierret, de retour de Bunia, RFI.
Bunia, où il est 6h34, même heure, à Gitega, au Burundi, où c'est normalement dans les prochains jours que les résultats des élections législatives et communales de jeudi dernier seront proclamés. Et des scrutins pour lesquels, je vous le rappelle, le principal parti d'opposition n'a pas pu participer. Et on s'intéresse ce matin à la manière dont les médias sur place ont pu couvrir l'événement. Alors que le Burundi était encore cité en exemple d'un pays avec une presse libre, indépendante et dynamique il y a une dizaine d'années, ces élections ont confirmé que ce n'était plus le cas. Les médias qui souhaitaient parler du scrutin ont dû accepter de mettre en commun leurs antennes et tous leurs journalistes et de diffuser en même temps les mêmes informations sous le contrôle du gouvernement. Précision et explication avec Esdras Sendikouman.
Ce sont 30 radios, 7 télévisions et 30 médias de la presse écrite ou en ligne qui se sont mis ensemble pour couvrir les élections de jeudi au Burundi. Et c'est une commission dirigée par un directeur général du ministère de la Communication qui a trié pour cela les présentateurs et les quelques 300 journalistes déployés sur le terrain pour couvrir le vote. Papier radio, reportage télé ou encore poste à publier sur les réseaux sociaux, chacun de ces journalistes devait soumettre sa production à une rédaction qui avait le droit de les censurer. Et il ne s'en est pas privé. Écoutez ce journaliste burundais, nous avons modifié sa voix pour préserver son anonymat.
Il y a des irrégularités qui ont été rapportées sur terrain. Il y a des journalistes indépendants qui avaient essayé de défendre l'équilibre de l'information, mais malheureusement, qui n'ont pas pu continuer parce que la rédaction centrale les bloquait directement. C'est-à-dire qu'on était sous contrôle, on signalait l'information, on est sur terrain, on a vu, on a constaté. Au niveau de la rédaction centrale, on bloquait.
Tout au long des opérations de vote, la synergie des médias du Burundi assurait que tout se passait bien, mais ajoute-t-il...
Ça ne correspond pas à ce qui a été vu sur terrain.
Bourrage d'urne, vote multiple ou encore des électeurs forcés de voter pour les candidats du parti au pouvoir, tout cela a été passé sous silence, confirment d'autres journalistes burundais qui se disent totalement muselés aujourd'hui.
Esdras Ndikoumana, quel climat politique au Tchad. Avant-hier, le président Mahamat Idriss Déby a promis la tolérance zéro, a-t-il dit, envers ceux qui compromettraient la paix sociale et l'intégrité territoriale du pays. Le chef de l'État tchadien, qui n'a pas cité nommément l'ex-premier ministre Succès Masra, actuellement en détention, est poursuivi pour des faits présumés, notamment d'incitation à la haine et à la révolte, des accusations qu'il conteste fermement. Dans ce contexte, une autre prise de parole hier, celle des opposants du bloc fédéral. Eux dénoncent une augmentation des violations des droits de l'homme et accusent le pouvoir N'Djamena de museler les voix dissidentes. Le professeur Banyara Yoyana est le porte-parole de ce bloc fédéral.
C'est un système de terreur générale, aussi bien dans nos villes que dans nos campagnes. Et plus rien ne marche. Et on est en droit de se demander si on est encore dans un système démocratique. Cette démocratie est une fausse démocratie, même si c'est devenu leur slogan depuis leur arrivée au pouvoir. En tout cas, plus personne n'a le droit à la parole. La libre circulation des citoyens n'existe pas, tout est contrôlé. Les appels sont contrôlés et il y a l'arbitraire qui règne. Il faut continuer à parler, il faut continuer à dire ce qu'il faut dire au pouvoir. Parce qu'ils sont arrivés au pouvoir sur la base d'un programme et ce programme n'est plus respecté. Nous estimons qu'il est temps qu'on essaie d'agir parce que les gens ne sont pas du tout dans un état de droit, comme on dit. On subit et on continue à subir jusqu'à quand et pendant combien de temps.
L'opposant tchadien Banyara Yoyana, porte-parole de la coalition d'opposition Bloc Fédéral. La détresse d'une fille à Madagascar, où cela fait maintenant 3 ans et demi que le franco-malgache Paul Mayo Rafanouaran est détenu dans une prison de haute sécurité. Cet ancien officier de la gendarmerie française, condamné à 20 ans de travaux forcés pour des faits qu'il a toujours niés, de tentatives de coup d'État et de tentatives d'assassinat sur le président de la République. Un chef de l'État malgache à qui la fille de Paul Rafanouaran vient d'écrire, Élise, elle demande la libération de son père et elle dit en dernier recours faire appel à l'humanité d'Andjra Zoen.
Emmanuel Macron a récemment rencontré Andjra Zoen, donc il a parlé avec lui de la situation de mon père. Malheureusement, leur rencontre n'a pas permis à ce stade d'obtenir le retour en France de mon père. Et c'est la raison principale pour laquelle j'ai décidé d'écrire cette lettre au président malgache. C'est tout simplement parce que je n'ai plus d'autre recours. Et je pense qu'il est capable d'entendre, certes en tant que chef d'État, mais aussi et surtout en tant que père, la détresse d'enfants qui sont loin de leur père et qui sont condamnés à observer dans la plus grande inquiétude sa souffrance. La difficulté, c'est que si rien n'est fait, mon père va devoir encore passer les 16 prochaines années de sa vie en prison à Madagascar et en réalité ne pourra pas survivre dans cette prison très très longtemps. Ses conditions de détention sont absolument inhumaines. Pendant 3 ans et demi, il est resté à l'isolement le plus strict dans une cave, dans le noir, sans accès à des toilettes, sans être nourri par la prison. Il a été récemment placé dans un dortoir collectif qui est surpeuplé, insalubre, dans lequel sa sécurité n'est pas garantie. On l'a encore constaté très récemment, mon père a fait une lourde chute dans des conditions qui sont encore inexpliquées. Moi, je ne souhaite pas revenir sur le passé, sur le contexte qui a conduit à la condamnation de mon père. Là, je m'adresse vraiment à Ange Razoel, dans sa capacité à distinguer, au-delà des décisions de justice, la situation humaine telle que je lui décris. Et aujourd'hui, ce que j'espère, c'est qu'il puisse permettre à mon père de finir ses jours près de ses enfants, que cela soit permis par un geste de grâce ou un transfert de mon père dans le cadre d'une prison française.
Élise Maillot, la fille de Paul Maillot Rafanou Harahan. Enfin, c'est une conséquence de la suppression par Donald Trump des financements de l'USAID, l'agence américaine de développement. Et c'est une information du Washington Post et de l'agence Reuters. Des millions de produits contraceptifs destinés en particulier à l'Afrique subsaharienne sont aujourd'hui bloqués dans des entrepôts et menacés d'être détruits, nous explique Laura Martel.
D'après l'enquête du Washington Post, le stock en question, entreposé en Belgique et aux Émirats Arabes Unis, comprend des préservatifs, mais aussi des implants contraceptifs, des pilules et des dispositifs intra-utérins pour une valeur de plus de 12 millions de dollars. Des moyens de contraception initialement destinés en majeure partie aux femmes vulnérables d'Afrique subsaharienne, notamment les plus jeunes, exposées aux grossesses précoces, et toutes celles qui n'ont pas accès aux contraceptifs, faute de moyens ou en raison de conflits. Le stock est bloqué depuis que le gouvernement américain a gelé en janvier l'essentiel de ses programmes d'aide au développement et semble ne plus vouloir ni faire don des contraceptifs ni en payer les coûts de livraison ou de destruction et insisterait plutôt pour les vendre, bien qu'un haut fonctionnaire du département d'État qui supervise USAID affirme qu'aucune décision quant au devenir du stock n'a été prise. Selon le Post, des discussions ont été lancées entre des représentants des pays concernés, des agences et ONG humanitaires internationales et Chemonix, l'entreprise chargée de l'approvisionnement en produits de santé d'USAID. Mais la vente, comme le don, s'avère difficile à admet un responsable de Chemonix, car au-delà de l'aspect financier, la moitié des contraceptifs stockés ont d'ores et déjà une durée de vie inférieure à celle habituellement exigée pour l'importation de produits de santé.
Laura Martel, il est 6h42, ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI. Xavier Besson.
Afrique Matin à suivre les architectes africains au chevet des villes du continent. À Dakar le mois dernier, ils s'y sont tous retrouvés et notre correspondante y était aussi. Chemin d'écriture ensuite, votre chronique littéraire dominicale. Deuxième volet, aujourd'hui consacré à feu l'écrivain kényan Ngugi wa Thiong'o. Et tout de suite, ce sont les sports. Avec Victor Missistrano. Bonjour Victor.
Bonjour Xavier, bonjour à tous.
Et d'abord du football ce matin, les champions d'Afrique en stage au Canada.
La Côte d'Ivoire qui jouait cette nuit un match amical à Toronto contre la Nouvelle-Zélande. Défaite 1-0 des éléphants malgré une très nette domination. Ils tenteront de rectifier le tir mercredi contre les Canadiens. En attendant, parmi les matchs à suivre aujourd'hui, les Léopards de RDC qui ont battu le Mali jeudi affrontent Madagascar à Orléans dans le centre de la France à 15h temps universel.
Et pendant ce temps, dans le sud-est de la France, le tournoi Maurice Revello se poursuit.
8 sélections de jeunes de moins de 20 ans sont réunies, dont 2 représentants africains, le Mali et le Congo-Brazzaville, qui après avoir été battu 2-0 par le Japon, s'est incliné hier sur le même score face au Danemark. Une équipe en réalité emmenée par l'association Congo Sport, la fédération congolaise de football dont la suspension vient d'être levée par la FIFA, a tout tenté pour empêcher leur participation. Elle a envoyé un communiqué aux organisateurs de la compétition avec en copie la fédération française. Dominique Nkoukou, conseiller du président de la FECOFOOT, explique la position de l'instance.
Le communiqué disait que la fédération congolaise de football ne reconnaissait pas avoir engagé une équipe nationale, quelle que soit la catégorie, à cette compétition. Le football est régi par des règles, ne peut engager une équipe nationale, quelle que soit la catégorie, qu'une fédération d'un pays. À ce titre, la Fédération française de football a réagi en nous informant qu'ils avaient pris des dispositions, ils avaient demandé aux organisateurs de présenter des excuses à la Fédération congolaise de football et tout ce qui est lié à une soi-disant équipe nationale du Congo. Les organisateurs ont retiré. Donc, on n'est pas contre ceux qui ont joué là-bas, mais ils n'ont pas la légalité pour utiliser les affiches comme équipe nationale du Congo.
Des propos recueillis par Jean-Ruffin Louemba, l'association Congo Sport achèvera son tournoi mardi, Xavier, face au Mexique.
Et puis le basket, victoire aux États-Unis, alors que se profile le deuxième match des finales de la NBA.
Oui, il aura lieu la nuit prochaine à Oklahoma City. Indiana mène pour l'instant 1-0 après sa victoire renversante, déjà sur le parquet du Thunder en ouverture de ses finales. Jamais titré, les Pacers continuent de déjouer les pronostics. Ils ne sont plus qu'à 3 succès d'un titre de champion. Un trophée qu'a déjà remporté leur ailier Pascal Siakam en 2019 avec Toronto. En plus d'être un joueur majeur de l'équipe, le Camerounais de 31 ans apporte toute son expérience à ses coéquipiers.
Ça fait plaisir donc d'avoir l'opportunité d'être un leader dans une équipe de jeunes et le fait que j'ai déjà eu à jouer dans l'NBA Finals, ça m'aide vraiment et je peux apporter cette expérience à mon équipe. Mais on a une très bonne équipe et tout le monde joue ensemble et à la fin, bon, c'est une très bonne expérience et on espère être victorieux.
Oklahoma City, Indiana, ce sera à minuit temps universel la nuit prochaine. Et puis à la Basketball Africa League en Afrique du Sud, les matchs de classement se sont terminés. Il y en avait deux hier. Les Tunisiens de Monastir ont battu les Nigérians de River Supers 89 à 81. Victoire de l'APR du Rwanda 75 à 57 contre le Petro de Luanda, tenant du titre.
Merci Victor Missistrano, c'était le journal des sports. Reportage à Dakar dans une minute. Avant cela, l'essentiel de l'actualité internationale de ce dimanche 8 juin et la Colombie avec un candidat à la présidentielle qui a été touché par balle à Bogota. Miguel Uribe, sénateur conservateur qui tenait un meeting de campagne avant l'élection qui a lieu l'an prochain. Le maire de Bogota indique qu'il a été transporté en urgence dans un établissement médical spécialisé et admis en soins intensifs. Le tireur présumé, lui, a été interpellé par le service de sécurité du sénateur et le gouvernement colombien qualifie d'attentat cette attaque. Deux autres personnes ont été blessées. Correspondance avec notre envoyé spécial à Bogota dans un quart d'heure dans le prochain journal sur RFI. Les États-Unis et le déploiement de 2000 membres de la garde nationale ordonnée par Donald Trump en Californie. Des heurts ont éclaté à Los Angeles lors de manifestations contre des arrestations massives d'immigrés en situation illégale. Objectif, selon la porte-parole de la Maison-Blanche, remédier à l'anarchie qu'on a laissé prospérer. L'administration américaine qui a rejeté la faute sur les dirigeants démocrates californiens qualifiés d'incapables. Dans la bande de Gaza, la défense civile fait état de 36 morts dans de nouvelles frappes israéliennes. Hier dans l'après-midi, l'armée israélienne avait appelé à évacuer des quartiers situés dans le nord de la bande de Gaza. Et sachez qu'hier à Rome, une manifestation géante organisée par l'opposition a réuni 300 000 personnes. Selon ses organisateurs, les manifestants ont appelé à la fin des massacres à Gaza. C'était une première au Sénégal le mois dernier. Les architectes de tout le continent s'étaient donné rendez-vous à Dakar pour le premier symposium des architectes africains. Pendant 3 jours, ils étaient une centaine et ils se sont penchés sur le thème « Repenser les villes africaines pour une perspective durable ». À la clé, une déclaration commune qui contient une série de recommandations pour les États du continent pour qu'ils améliorent la qualité des villes. À Dakar, Lalisa Westerhoff.
Spéculation foncière, croissance galopante des villes et avec quelles solutions architecturales y faire face? Une centaine d'architectes se sont succédés de table ronde en table ronde. Une rencontre inédite, comme le rappelle Angela Mingas, architecte venue d'Angola.
C'est la première fois. C'est waouh! Ça fait plus de 10 ans qu'on ne s'est pas vu et c'est la première fois en Afrique. C'est très important.
Pour elle, c'est une rencontre cruciale.
Parce que les villes ont les mêmes problèmes à travers le continent. Nous avons tous cette dualité d'un centre-ville hérité de la colonisation et d'une périphérie. Même si nous sommes différents, nous partageons les mêmes défis. C'est donc une opportunité inédite pour échanger des connaissances.
Et pour Baba Seck Bali, un entrepreneur dans l'immobilier venu spécialement du Mali, il y a urgence à trouver des solutions communes.
Vous imaginez comment on va vivre à Dakar dans 20 ans? Ça va être très compliqué. Trop de monde, trop d'embouteillages, trop de CO2 et tout le reste. Le gros problème, c'est la spéculation. Malheureusement, les spéculateurs sont toujours en avance sur les planificateurs, ce qui fait que nos villes s'agrandissent dans un désordre total.
Face à ce désordre et pour rattraper les erreurs de l'urbanisation anarchique, les architectes ont produit un mémorandum commun, une déclaration de Dakar qui veut entre autres corriger la ségrégation spatiale héritée de la colonisation, réaffirmer l'importance d'utiliser les solutions et connaissances architecturales du continent adaptées au continent, mais aussi encourager les États à adopter des normes de construction plus durables. Exemple avec les briques de Tifa, du nom de cette plante qui pousse partout au Sénégal, une brique bien plus durable que le ciment. Encore faut-il en connaître l'existence, comme l'explique Ernest Dion. Il co-dirige le bureau BioBuild Africa.
C'est une innovation qui a besoin d'être supportée au point de vue législatif, au point de vue réglementaire, que l'État le supporte par exemple par des réglementations, des incitations, encourager les gens à utiliser ce matériau et qu'on puisse l'accompagner avec une normalisation pour pouvoir lui donner une reconnaissance scientifique et technique.
Pour cela, il faut aussi augmenter les capacités de production des entreprises qui la fabriquent, d'énormes chantiers qui ne réussiront que si les États africains s'emparent de ces recommandations formulées par les architectes. Léa-Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
À Dakar, où il est 4h50. L'heure de Chemin d'écriture, la chronique de Tirtan Karchanda. Deuxième volet ce matin, consacré à l'écrivain kényan Ngugi wa Thiong'o, disparu la semaine dernière. Ce matin, dans cette rediffusion d'une chronique de 2023, on évoque ses souvenirs d'enfance avec le roman traduit en français sous le titre « Rêver en temps de guerre » qui raconte le Kenya colonial où Ngugi wa Thiong'o a grandi.
Quand des années plus tard, j'ai lu le vers de T.S. Eliot où il est dit qu'avril est le plus cruel des mois, je me suis souvenu de ce qui m'était arrivé un jour d'avril 1954 dans la fraîcheur de Limuru, au cœur de cette région sur laquelle en 1902, un autre Eliot, Sir Charles Eliot, alors gouverneur colonial du Kenya, avait fait main basse en la rebaptisant White Islands, les hauts plateaux des Blancs. Le passé m'était alors revenu en mémoire, aussi vif que s'il était à nouveau présent.
Ainsi commence « Rêver en temps de guerre », le premier tome des mémoires romanesques de l'écrivain kényan Ngugi wa Thiong'o. Ce sont des mémoires très politiques également, comme l'illustre l'extrait que l'on vient d'écouter. Dans ce passage, Eliot n'est pas seulement le nom d'un poète, c'est aussi le nom du gouverneur britannique dont le souvenir reste associé aux spoliations coloniales. Ce rapprochement du politique et du poétique est ce qui fait la singularité de toute l'œuvre littéraire du kényan. L'engagement militant de Ngugi s'enracine dans son enfance, qui est le sujet du premier volume de ses mémoires. Né en 1938, l'écrivain a grandi dans l'ombre oppressante de la colonisation britannique. L'école sera sa porte de salut. Ngugi wa Thiong'o.
Je n'ai jamais imaginé que je pourrais un jour faire des études. C'est ma mère Wanjiku, qui ne savait ni lire ni écrire, qui m'a demandé un soir si j'aimerais aller à l'école. La question est restée gravée dans ma mémoire tant l'école me semblait à l'époque hors de ma portée. En fait, tout ce que je suis aujourd'hui, je le dois à ma mère. Les femmes ont toujours joué un rôle majeur dans ma vie.
Dans une des scènes les plus poignantes du livre, l'écrivain se souvient de sa mère lui faisant promettre qu'il n'allait pas lui faire honte un seul jour en refusant d'aller à l'école parce qu'il avait faim ou parce que c'était difficile. Si l'univers magique de l'école apparaît dans le livre comme le contrepoint des turbulences que traverse le Kenya colonial, l'école ne fut pas tout à fait un havre de paix. Malgré l'acculturation que l'école a représentée pour le jeune Ngugi, le pacte que ce dernier avait conclu avec sa mère par une soirée d'hiver ne fut jamais rompu. Il le fut d'autant moins que parallèlement au traumatisme de la perte de sa culture, l'école permit à l'adolescent de découvrir sa future vocation d'écrivain en l'initiant aux grands classiques de la littérature anglaise. Grandes espérances de Dickens, tout comme l'île au trésor de Stevenson, seront sa porte d'entrée dans le monde de l'imaginaire. Le garçonnet en avait pressenti obscurément l'existence dès sa plus tendre enfance, notamment lors des veillées nocturnes.
Mon père avait quatre épouses, nous les appelions nos mères. Nous nous réunissions chaque soir dans la case de l'aînée des quatre. Elle était une conteuse hors pair. J'étais fasciné par le monde imaginaire dans lequel elle nous entraînait. Nos mères nous disaient que la lumière du jour chassait les histoires. Elle rentrait chez elle dès que le jour pointait son nez. C'est seulement lorsque je suis allé à l'école et que j'ai appris à lire et à écrire que je me suis rendu compte qu'on pouvait raconter des histoires quand on voulait en fait. Je crois toutefois que ce sont les veillées nocturnes autour de ma belle-mère conteuse qui ont fait de moi l'écrivain que je suis devenu.
As a writer.
Rêver en temps de guerre se clôt sur le départ du protagoniste pour la prestigieuse Alliance High School où se déroulera la suite de sa scolarité. Assis dans le car, l'adolescent ne perçoit pas encore, à travers la brume qui enveloppe le paysage matinal, la promesse de la somptueuse vie d'écriture qui l'attend. Mais il n'oublie pas de rendre hommage à sa mère en renouvelant dans la pensée leur pacte secret de rêver même en temps de guerre.
C'était Chemin d'écriture, la chronique de Tirthankar Chanda. À 100% création maintenant, Maria Afonso avec Jérémy Lucas, fabricant de planches de surf.
Tout est beau dans le surf. Le rapport au sport change. Les questions d'ordre environnemental, c'est déjà ancré. Et là, on est quelques makers, hein, en France et dans le monde, à essayer de participer à quelque chose de plus vertueux, de plus respectueux sur cette industrie-là.
Jérémy Lucas, fondateur de Paradoxal Surfboard.
Paradoxe du surfeur, cette personne qui a cette conscience environnementale du fait de sa pratique, mais pas d'autre choix que d'utiliser du matériel fait à base de pétrole. Ce qui est paradoxal aussi, c'est le fait qu'on utilise un déchet qu'on trouve dans l'océan, l'algue, dans un objet qui va retourner dans l'océan. Et l'autre paradoxe, c'est que je ne suis ni designer, ni chimiste, et pourtant je propose un projet qui fait déjà parler dans l'industrie du surf, et ça c'est assez paradoxal aussi.
Jérémy Lucas est originaire de Bretagne. Après un parcours académique en technique de commercialisation, management de projet et entrepreneuriat, il travaille dans différents établissements publics, privés ou associatifs. Il se définit comme pluridisciplinaire, polycompétent et passionné de surf. Lors d'un voyage en Australie, Jérémy Lucas a l'idée d'utiliser les algues qui polluent les plages comme matière première pour fabriquer des matériaux innovants et lancer son projet de planche de surf en matériaux recyclés et biosourcés. Au cœur du projet de Jérémy Lucas, la valorisation des déchets issus de la mer qui deviennent une ressource précieuse pour la fabrication durable de matériel sportif. Un objet plus respectueux des océans, mais pas seulement.
Je peux vous assurer qu'à partir du moment où vous avez une planche qui n'est pas faite comme les autres, vous avez un rapport au sport qui est différent lui aussi. En plus de ça, quand c'est biosourcé, vous avez un autre rapport aussi à la nature. Au-delà d'une œuvre d'art fonctionnelle 4.0, c'est l'expérience derrière utilisateur, utilisatrice, qui m'intéresse beaucoup. J'ai hâte d'avoir les premiers retours sur l'expérience qu'ils vont avoir à l'eau avec ce genre de matériel.
Jérémy Lucas s'inspire des formes d'algues pour concevoir le design de sa planche de surf nouvelle génération, performante et esthétique.
Je me suis inspiré d'une algue diatomée, mais à l'échelle nanométrique, avec ses formes concentriques là, et à l'échelle cette fois-ci microscopique, ça ressemble à une planche de surf. Je me suis dit, ah ouais, il faut que je parte de ce constat-là pour venir designer la structure en forme circulaire de la planche de surf. Donc, du design visuel, on a réussi à en faire une efficience structurelle, c'est-à-dire qu'on arrive à utiliser peu de matière et avoir quelque chose de très solide et donc des planches très durables.
Retrouvez l'univers de Jérémy Lucas sur RFI.fr chronique 100% création et sa version longue en podcast sur RFI Pure Radio.
Et Maria Afonso, enfin avant de retrouver Julien Coquel-Roem dans 3 minutes pour RFI Matin et pour clore cette demi-heure passée ensemble, de la musique sur la playlist RFI ce matin, Maureen Bendurbach.
J'entends ce qu'ils disent, mais ça vexe pas. Puis 2010, moins qu'à tête ça. Trop de sous, mais ça ne paye pas. Fesse moins en les Netflix ou les checks ça. Donc bend your back, pussy. Move your fat, open your fat. Bend your back, pussy. Move your back, open your. Con 8-6, mon impression. À la base, m'en pâte et les fessons. T'as Maureen dans la tête et dans tous les caissons. T'as le seum, j'suis à la télévision. En les laptop, café flexion. Tu kiffes pas quand j'écrase la session. Je bouge mon tempé dans la maison. Normal, moi en 5, j'ai full connexion. Ça pète, tic, tac, tec. C'est free, m'en dit où c'est tic, tac, tec. Écris. Donc bend your back, pussy. Move your fat, open your fat. Bend your back, pussy. Move your back. Opinion. En impression, moi les temps. Café, diamant, bas les gens. Quand à l'homme, ni mauvais temps. Pas si buzz, pas si cancan. Je les ai promenés dans les champs. Vu le petit boule alléchant. Les doux, pas méchants. Je t'ai dit, t'es le, t'es pas méchante. Des Batman molle, pas d'à modeler. Tu veux Maureen, tu peux pas la doter. Dans ta tête, vous voyez ça monter. Pourtant, où aimerais moi pas ni gotété. Donc, bend your back, pussy. Move your fat. Bend your back, pussy. Move your back, open your. J'ai le flow qui pète, m'en savent ça embêtant. Ouais, moi c'est en wheel complète, m'en cabaou en deux temps. En l'eau, fait matin, tout ma méchante. Bon à moi, ni miel alléchant. Pour venir le chez quand il fait mon chant. Quand il fait mon chant. Ça fait tic, tac, tec. C'est frimandi ou c'est tic, tac, tec. Écrit. Donc ben your back.
La Martiniquaise Maureen, ben your back. Sur RFI, restez avec nous dans 30 secondes. Le journal, passez une excellente matinée à l'écoute de la Radio Mondiale.
Venez célébrer la fête de la musique le 21 juin prochain et participez à cet événement festif dans le monde entier autour d'une programmation de concerts gratuits. Un événement organisé par le ministère de la Culture. Plus d'informations sur fêtedelamusique.fr. En partenariat avec France Média Monde.